Tim Dutheil, accompagné par Joël Favreau à la guitare, Bernard Tessier à la contrebasse, avec nous Hubert Rive, astrophysicien, physicien tout court. Alors Hubert, cette origine de l'univers qui remonte, je sais pas, 15 milliards d'années à vue de nez, toi tu t'intéresses à la fraction de seconde, le début, là où ça a pété, où ça a fait le grand boom, le Big Bang. Bon, après on a créé la matière, l'antimatière, etc., les galaxies, mais toi c'est la fraction de seconde du début.
Enfin, les tout débuts, on s'aperçoit que les événements qui se sont passés quand l'univers était très chaud, c'est-à-dire ce qu'on a coutume d'appeler les tout débuts, les premières microsecondes ou micro-microsecondes, sont des événements déterminants vis-à-vis de tout l'avenir de l'univers. Un peu comme on dit que l'enfance d'une personne est déterminante pour sa vie à venir. Et de la même façon, on essaie de comprendre, et là, précisément, on a besoin à la fois des données qui nous viennent de la physique et des données qui nous viennent de l'astrophysique. On essaie de comprendre quelques-uns des grands mystères de notre univers. Le plus grand mystère étant tout simplement comment ça se fait que ça s'est organisé. Parce qu'une des choses qu'on découvre quand on étudie ce tout début de l'univers, c'est qu'on peut très bien le décrire comme un grand chaos. Et là, on rencontre les mythologies grecques, par exemple, Hésiode, faisait commencer l'univers dans un état de grand chaos. Et aussi plusieurs mythologies d'Amérique du Nord, d'Indiens d'Amérique du Nord, voyaient là un état initial totalement désorganisé. Eh bien, c'est ce qu'on découvre maintenant avec l'œil de la physique et de l'astrophysique, c'est qu'au début, c'est vraiment le chaos, et que progressivement, l'histoire de l'univers, c'est l'histoire de l'organisation de la matière. La matière s'organise. Pourquoi? On ne sait pas très bien. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle adore s'organiser. Chaque fois qu'elle a une chance de le faire, elle le fait. Il me dit « adore » entre guillemets, bien sûr.
Yves Dutheil.
Oui, j'ai envie de dire, on confond un peu la nature et le hasard. C'est-à-dire, le hasard ne fait pas les choses, il aura plutôt tendance à les défaire plutôt qu'à les faire. Alors que la nature, elle, effectivement, a tendance à s'organiser en systèmes de plus en plus complexes et qui sont à l'antithèse du hasard. On a l'impression qu'il y a une volonté.
Non, je crois qu'elles ne sont pas du tout à l'antithèse du hasard. Je crois que le hasard joue un rôle dans l'organisation de l'univers. Le hasard seul ne peut jamais rien faire, c'est évident. Mais il y a à la fois dans l'univers du hasard, et ça on le voit bien, et la physique l'a réinstauré et l'a revalorisé, lui a redonné sa dignité. On l'avait jusqu'ici considéré comme un agent de dissolution. Pas du tout. Le hasard, on le remplace plutôt par le jeu aujourd'hui. La nature joue. Il y a un cadre, il y a des lois qui sont fixes, mais ces lois ne sont pas très déterminantes. Et dans ce cadre, avec le jeu du hasard, la nature évolue. Et le plus bel exemple, c'est la très grande diversité des espèces animales. Il y a 50 000 sortes de papillons sur la Terre. 50 000 sortes de papillons. Et là, voilà un exemple du jeu de la nature, cette espèce de grande roulette qui joue continuellement, qui produit des espèces nouvelles, qui produit des personnes nouvelles. Il y a 4 milliards de personnes sur la Terre. Aucune d'entre elles n'est semblable. Aucune d'entre elles n'est identique. Il pourrait y en avoir beaucoup plus. Voilà l'exemple de ce grand jeu, cette grande roulette de la nature.
Voilà, Yves, le hasard intervient.
Elle joue bien, la nature.
Mais elle joue bien, la volonté dont tu parlais, oui. C'est un peu... Tu voulais parler de Dieu, peut-être,
Non,
je vais arriver à Dieu dans quelques instants avec mon hibernatum. Non, mais c'est un petit peu ce qui donne les lois de base. Il y a une loi, un cadre, ce sont les lois, c'est peut-être ce qu'on peut appeler la volonté, et il y a le filtre du hasard qui permet d'explorer toutes les combinaisons possibles.
Voilà. Moi, j'en reviendrai un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le hasard faisant bien les choses parce qu'il ne joue pas avec les règles de l'humanité, de l'univers. Il est fait avec, il en fait partie. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas vraiment vu de haut et de loin ces règles de l'univers qui régissent finalement tout, aussi bien la destinée des hommes, puisque les hommes font aussi partie de cette harmonie universelle, que le cours des planètes, on aura l'impression que c'est le hasard. En réalité, c'est la question finale. Est-ce que c'est vraiment du hasard ou est-ce qu'on n'a pas fini de découvrir les véritables lois de l'univers?
Alors, la question que vous posez revient à demander, est-ce qu'aux premières secondes de l'univers, il est inscrit dans un grand livre que nous serions ici un jour en train de parler?
Non, pas du tout.
Je pense que la réponse, c'est non.
Non, non, mais...
L'univers est inventif et créatif. Il y a toujours des choses nouvelles. Chaque instant est nouveau. Et cette nouveauté, elle est bâtie dans le fait que dans un cadre de loi stricte, mais pas très exigeante, qui ne demande pas grand-chose, qui sont contentes de pas grand-chose, il y a tout ce jeu de la nature, et ce jeu fait que chaque instant est nouveau, et que l'univers n'est pas déterminé à être ce qu'il va être. En d'autres mots, le futur n'est pas déterminé vis-à-vis de nous, il n'est que contraint par certaines limites. Et l'univers n'ira pas contre ses limites, mais il y a de la place pour beaucoup de gens, beaucoup de choses, beaucoup d'événements imprévus.
Moi, j'ai plus une notion de plutôt que de loi. Effectivement, je pense que la première minute de l'univers, il était certainement pas déterminé, prédéterminé. On a plus une notion d'équilibre, mais l'équilibre étant une espèce de mouvement perpétuel qui tient compte des forces en présence, un peu comme il existe des équilibres, un déséquilibre et un équilibre entre des forces de pays qui sont voisins et qui sont sur le point toujours de se déclarer la guerre, mais qui le font jamais parce que c'est tellement dangereux que ça risque leur existence. Et on a presque l'impression d'un équilibre permanent qui bouge, qui se remet en cause, qui vacille et puis qui se rattrape à la dernière seconde parce que justement il y a le petit détail qui remet tout en équilibre. La nature, on a l'impression qu'elle fonctionne comme ça, vu de l'extérieur. Moi, je suis pas scientifique, mais j'ai cette vision parce que le hasard fait quand même trop bien les choses pour qu'on puisse l'appeler éternellement hasard.
Tu voulais ajouter quelque chose ?
Non, ce que je voudrais dire, c'est moi, j'écoute, il y a deux versions un petit peu opposées, une impression du hasard du côté de Hubert et puis une vision qui refuse un peu le hasard du côté de lui. Je voudrais dire que ça n'a pas été toujours facile d'arriver à toutes ces croyances actuelles et qu'il y a des gens qui se sont fait brûler pour ça. Et justement,
c'est ceux qui avaient raison avant d'avoir le droit d'avoir raison.
Tout à fait. Et justement, on a un invité dans cette émission qui est un Italien du 16e siècle qui s'appelle Giordano Bruno. Alors, Giordano Bruno, j'ai retrouvé, 16e siècle, un descriptif dans une encyclopédie du 17e où on parle de lui. On ne parle pas de lui, pardon, mais très gentil. C'était un homme beaucoup d'esprit, mais qu'il employa bien mal en attaquant les vérités les plus importantes de la foi. Alors, il a soutenu avec raison, ou du moins très vraisemblablement, que l'univers est infini, qu'il y a plusieurs mondes et que le système de Copernic est le seul recevable. Il s'est étrangement égaré, dit cette encyclopédie du XVIIe siècle. C'est un traité d'une très mauvaise morale et de plus très ridiculeusement digéré. Le résultat, la dernière ligne de la biographie de ce monsieur, c'est Giordanus Brunus fut brûlé à Rome en l'an 1600 par jugement de l'Inquisition. Eh bien, nous avons décidé à trajectoire de réhabiliter Giordano Bruno quelques siècles plus tard et les portes du Libérateur vont s'ouvrir sur lui. Mais oui, vous pouvez applaudir Giordano Bruno.
Bonjour à tous. Eh bien, cette semaine, pour parler de la genèse de l'univers, tout de suite, l'idée d'inviter Dieu lui-même a circulé dans les couloirs de l'Hibernatum. Inutile de vous dire que le conservateur de ce drôle d'établissement était très embarrassé. Comment inviter un personnage aussi complexe, aussi vaste, qui est précisément à la taille de l'univers ? Eh bien, à défaut de rencontrer Dieu tout entier dans un des tiroirs de l'Hibernatum, les services de trajectoire ont tranché et c'est moi, Giordano Bruno, qui suis là à la place des dieux. Vous avouerez, après avoir été brûlé en place publique à Rome, c'est une réhabilitation spectaculaire. À la veille de l'an 1984, que je vous souhaite bon, je suis content de me retrouver un peu à Paris, en esprit tout du moins. J'y ai reçu un bon accueil autrefois. D'ailleurs, j'ai été très bien accueilli dans toute l'Europe. Bon, mis à part quelques disputes ici ou là, les choses ont vraiment commencé à se gâter quand l'envie irrésistible de revoir l'Italie, ma patrie, m'a poussé dans les geôles de l'Inquisition. Ah, je ne vivais pas une époque facile, surtout pour un philosophe de mon espèce, bouffon, errant, à la plume extravagante, pleine de hardiesse. À vrai dire, c'est la philosophie qui a constitué ma profession. Et c'est pour ma profession de foi philosophique que j'ai été condamné. Que voulez-vous ? J'ai été victime de la disgrâce posthume de Copernic, que j'ai défendu de toutes mes forces. J'ai proclamé avec véhémence que l'univers créé par un esprit infini ne peut être qu'infini lui-même, qu'il y a d'autres terres dans le ciel, et qu'aucun de ces innombrables mondes semblables aux nôtres ne peut prétendre être le centre. Ma conception, en réalité, est bien plus favorable à la religion que le géocentrisme et n'a heurté que la sainte ignorance de ceux qui se laissent guider par la lanterne de la foi. Je voudrais vivre une époque semblable à la vôtre, débarrassée de la domination écrasante de l'Église, une époque où la pensée rendue libre pose autrement le mystérieux problème de Dieu et de sa création.
Hubert Reeve, est-ce que si tu avais vécu au 16e siècle, tu aurais pu dire les mêmes choses qu'aujourd'hui? Est-ce qu'il n'a pas raison, lui, en disant qu'il aimerait bien vivre aujourd'hui?
Ah, il est certain qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de liberté de parler, de nous exprimer comme nous le voulons qu'à cette époque, qui était encore dominée par l'Inquisition, c'est-à-dire par une réglementation religieuse extrêmement stricte.
On a l'impression que à l'époque, on avait peur de parler, de mêler la science à la religion, et puis finalement, en rabaissant la religion, c'est-à-dire en la séparant tellement, la science finirait presque par la rejoindre maintenant, ce qui est presque un paradoxe.
C'est un peu ce que Bruno disait lui-même. Quand Bruno disait « Je pense que l'univers est infini », on lui disait « Monsieur, vous êtes anathème, il n'y a que Dieu qui est infini, et l'univers ne peut pas être infini ». Et Bruno disait « Vous vous trompez ». En imaginant que Dieu a créé un univers infini, je lui donne des attributs beaucoup plus grands, beaucoup plus dignes de lui que ceux que vous lui attribuez avec votre univers petit et étriqué. Et ça, ça ne leur plaisait pas du tout.
Yves Duteil, une autre chanson, c'est la statue d'ivoire. Volonté. Qu'est-ce que c'est cette statue d'ivoire?
Ah ben justement, c'est un peu quelque chose de tout petit qui devient symbolique d'énormément de choses très grandes.
Et c'est le principal titre, le titre générique de ton dernier album, Yves Duteil, la statue d'ivoire.
De penser que la statue d'ivoire des amants enlacés nous fait l'amour ce soir. Ce tout petit cadeau pour commencer l'année, leur sourire était beau comme un matin d'été. Nos objets nous regardent avec leurs souvenirs, et pour peu qu'on s'attarde à leur appartenir, tout ce qu'on a aimé revient autour de nous. On a le cœur serré, la gorge qui se noue. L'amour, c'est quand le temps se transforme en mémoire et nous fait le présent d'un passé plein d'espoir. Si tout ce que la vie nous offre ou nous prépare se noie dans un oubli précoce et dérisoire, il me plaît de penser que sans nous, le hasard n'aurait pu composer un monde aussi bizarre. Et que sans nos amours, le temps serait mortel, comme est le fil des jours quand la mort nous appelle. Si tout ce que la vie nous offre ou nous prépare devait venir ainsi se graver quelque part. Ces amants enlacés dans leur amour d'ivoire, qui nous ressemblent assez pour cacher notre histoire. Il me plaît de penser que c'était nous ce soir. C'était nous ce soir, que c'était nous ce soir.
Merci Yves Duteil. Je vous rappelle que vous êtes sur France Inter, vous écoutez Trajectoire, l'origine de l'univers avec Yves Duteil donc, et Hubert Reeve, astrophysicien, et avec nous également, comme chaque semaine, notre ordinateur qui parle, notre goupil avec sa voix citée Alcatel, et bien sûr là-haut, qui descend les marches, André-Yves Pécheux.
Bonjour Laura.
C'est lui qui vous dit bonjour.
Ah bon, il dit ça, il dit pas bonjour André-Yves?
Non, 15 à 20 milliards.
Ah bah c'est quoi, ça y est. Ah bah ça y est, j'ai cassé l'ordinateur.
Ça c'était des chiffres que j'avais enregistrés pour les gens qui sont comme moi, qui n'ont pas de mémoire, oui. Pour nous dire depuis combien de temps l'univers existait approximativement.
André-Yves, ton ordinateur est stupide, est-ce qu'il a quand même quelques informations?
Ah oui, il va vous dire exactement combien il y a d'étoiles dans une galaxie.
100 milliards.
Oui, dans une galaxie normale. Oui, dans une galaxie normale, comme la nôtre, et il y a sans doute autant ou plus de galaxies qu'il n'y a d'étoiles dans cette galaxie.
Certainement.
Cette idée
de
l'infini, galaxie née il y a 15 milliards d'années, en combien de fractions de secondes elles sont apparues, les galaxies?
Ah, assez tard, hein, plusieurs centaines de millions d'années, sinon un milliard d'années après le début.
Et ben voilà, donc sur 15 milliards d'années. Oui,
et vous savez, Laurent, les chiffres qu'on oublie toujours, par exemple, combien parcourt la lumière de kilomètres en une seconde?
Ah non, mais ça, ça fait partie des questions qu'il faut poser parce qu'il y a l'interrogation écrite le lendemain de l'émission de trajectoire.
10 milliards.
Ah. 10 milliards de quoi, hein?
J'adore quand des ordinateurs se
prennent. C'est rassurant. Non, mais, allez, je voudrais préciser que les pannes de l'ordinateur, de nouveau, ni à Goupil, ni à la voix, si telle que telle, parce que sans ça, ça ne marchait
non,
pas.
Non, là, il a expliqué que 10 milliards, c'est le nombre de kilomètres.
C'est trompé de question.
C'est trompé de question.
Mais ça, Laurent parle vite, il appuie vite aussi sur le...
Oui, il a les bonnes réponses, mais pas les bonnes questions.
Bon, alors, les années-lumière, c'est... qu'est-ce que c'est, la question?
On va voir ce qu'il va dire.
300 000 km/s.
Oui, ça c'est la vitesse de la lumière, voilà, tout le monde connaît ça. Et encore, c'est pas tout à fait ça, c'est 299 000 quelque chose, super.
Ah, hein, des bricoles.
Oui, l'ordinateur, bon.
Et l'âge du soleil, Laurent, ça intéresse tout le monde, ça aussi.
4600 millions.
Non, ça c'est 4600 millions ?
Oui, c'est
de
ça.
De quoi ? 4600
millions de quoi, oui, il faudrait qu'ils nous disent de quoi.
Bon, eh bien, c'est comme chaque semaine, l'ordinateur. Non, mais il prépare
mais
le réveillon.
Dans votre livre, monsieur.
Oui, mais... Ah, bah oui, mais dans le livre, on disait ce que c'était.
Oui, 4600 millions bon, de quoi.
André, il y a quelque chose de raisonnable.
Oui, il y a quelque chose de raisonnable, c'est-à-dire qu'on se pose toujours la question combien de temps le soleil va briller, hein. C'est une grande question. Alors, allez-y, Laurent.
5 milliards.
D'années, là, cette fois-ci.
Ah, vraiment. Hein,
quand même. Il va vivre 5 milliards d'années, le soleil
5 milliards, ben... oui, mais il n'a pas complété avec les années, là.
Ah oui, bien.
Mais je l'ai dit, hein. Non, alors, c'est autre chose. Tenez à appuyer, Laurent, parce que c'est une surprise pour vous.
Bonne ça. Année 1984. Bonne année et meilleurs vœux pour 1984.
Ça, ce sont les ingénieurs de la CIT qui sont amusés un petit peu et qui ont synthétisé votre voix. Et maintenant, il y a aussi une autre bobine, parce qu'on ne le dit jamais assez, bonne année à tout le monde.
Oui.
Il y a une autre bobine, et ça, c'est une petite machine. On tape, comme sur une machine à écrire, les lettres, et voilà ce que ça sort.
La CIT Alcatel souhaite à tous les auditeurs de France Inter et à toute l'équipe de Trajectoire une bonne et heureuse année 84.
Eh bien voilà, on peut.
Merci de moi-même.
Bon,
voilà alors.
André, ça ne nous dit pas, sur 1984, cet ordinateur va enfin être sérieux.
C'est
et
pas
nous
certain.
Apporter des informations raisonnables.
Peut-être la semaine prochaine.
Ah bah alors à la semaine prochaine, André.
Au revoir, Laurent.
Et bon réveillon tout de même.
Merci.
Bon, tout ça. Hubert, après tout cela, il faut que nous revenions sur Terre, si j'ose dire, en l'occurrence, dans nos étoiles. Que recherchent les astrophysiciens maintenant? Est-ce que les questions qu'ils se posent ne sont pas les dernières questions? Car si on trouve un jour l'unification des forces fondamentales, qu'on comprend la matière, et puis ça c'est les physiciens des particules, puis d'un autre côté, les astrophysiciens géniaux au crâne brillant de savants comme toi nous trouvent l'origine de l'univers, quelles seront les questions qu'il y aura à poser après?
Je ne crois pas que nous en soyons aux dernières questions, je crois que nous sommes aux toutes premières questions. J'ai l'impression que par rapport à tout ce que nous ignorons, ce que nous savons, c'est vraiment très peu de choses. On est souvent obnubilé par la quantité de science qui a été découverte depuis 4 ou 5 siècles, mais quand on essaie de la jauger par rapport à toutes les questions que cette science nous pose, on s'aperçoit qu'on est vraiment au tout premier balbutiement. Et c'est heureux pour les scientifiques, parce que ça veut dire qu'ils ne seront pas en chômage très bientôt.
Mais est-ce que ça ne s'accélère pas, la découverte? Et est-ce que pour faire des découvertes plus fondamentales, il ne faut pas des télescopes de plus en plus grands ou des accélérateurs de particules de plus en plus puissants? Est-ce qu'on n'arrive pas à une limite?
Je ne crois pas que le rythme des découvertes scientifiques s'accélère. Je crois même qu'en ce moment, nous sommes dans une période plutôt... où les choses ne vont pas très vite. Les grandes périodes de découvertes scientifiques, ça a été de 1900, dans notre siècle, ça a été de 1905 à 1930. Et après 1930, il y a un ralentissement si on compte le nombre de découvertes fondamentales. Il y a beaucoup plus de gens qui passent beaucoup plus de temps, qui dépensent beaucoup plus d'argent. Mais le rythme des découvertes, on peut dire à distance que les choses vraiment importantes de ce siècle ont été découvertes avant 1930. Alors là, tu poses l'autre difficulté qui est évidemment cruciale, c'est que pour aller plus loin, on est obligé maintenant de faire des appareils toujours plus gros et toujours plus coûteux. Alors ça, c'est vrai d'une certaine façon. Il faut aussi dire souvent que l'astuce a pris la place de l'argent. Et que des gens ont fait des découvertes géniales, même récemment.
Lesquelles?
À partir de choses. L'effet Mosbauer, par exemple.
Ah, bon, qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas sûr que tous les auditeurs connaissent l'effet Mosbauer, on peut peut-être expliquer.
Ce serait un peu long d'entrer dans les détails, mais c'est une donnée fondamentale de la physique.
Et puis il y a quand même les deux astronomes, en l'occurrence les gens de la Bell Telephone, qui ont pointé un radiotélescope vers le ciel pour détecter des satellites et qui ont trouvé le fond du ciel qui avait une température et le Big Bang.
Voilà, une des découvertes les plus importantes du siècle, ce rayonnement, cette découverte du rayonnement du fond du ciel, elle s'est faite avec des moyens somme toute modestes si on compare par exemple avec l'argent que l'on met sur les accélérateurs et les grands télescopes. Je ne suis pas du tout contre ce mouvement de télescopes de plus en plus puissants et d'accélérateurs de plus en plus puissants. Je crois que c'est important, que c'est fondamental. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas nécessairement, ni toujours, de là que viennent les grandes découvertes. Elles viennent toujours beaucoup plus de l'astuce du génie individuel. Je pense que ça, c'est un aspect aussi rassurant que les erreurs des ordinateurs.
Je crois que les chercheurs aujourd'hui sont les explorateurs d'hier. Hein. C'est un petit peu ça.
Tout à fait.
Ce qui reste à découvrir, c'est des choses un petit peu impalpables. C'est ce qui me réjouit, c'est ce que vous disiez à propos de cette unification des sciences qui se complètent les unes les autres et qui communiquent enfin les unes avec les autres.
On a découvert que la chimie, la physique, l'astronomie, les mathématiques, la biologie, finalement, dessinaient une grande fresque, que leurs domaines se rejoignent. Quand on veut raconter l'histoire de l'univers, et pour raconter l'histoire de l'univers, il faut mettre à leur place, comme dans une fresque, tous les acquis de ces différentes sciences. C'est un peu comme ça qu'on pourrait résumer les 5 derniers siècles de sciences sur la planète.
Et peut-être les 5 prochains.
Hubert Reeve, lui, travaille pratiquement comme toi, avec un papier, un crayon, et de temps en temps, toi, tu montes sur scène, ou tu vas dans un studio, et lui vient dans un studio de radio, de télévision pour communiquer. On a chaque semaine dans Trajectoire un invité impossible qui fait l'objet d'un jeu absolument brillant dans la mesure où vous avez gagné ce cadeau, en l'occurrence un sac France Inter bourré de cadeaux. C'est un personnage qui était vraiment impossible. Qu'est-ce qu'il y a-t-il ? Joël Favreau sourit. C'est un personnage qui était impossible d'avoir ici pour des raisons évidentes. Il faut le deviner, le trouver. La lumière va se faire dans la salle. Il va falloir faire vite pour lever la main quand vous l'aurez reconnu. C'est ainsi, c'était mélodique. Autrement dit, un montage de chansons qui évoque ce personnage que j'aurais bien aimé avoir dans l'émission. Écoutez, reconnaissez.
Appelle-moi, dans ma maison.
Quand tu descendras du ciel.
Quoi, ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ?
C'est décidé, cette nuit, je pars.
Ne me quitte pas.
Et les yeux dans les yeux.
Premier rang, une première réponse ?
E.T.
E.T., oui, c'est E.T., absolument, bravo. Je suis désolé pour tous les enfants qui étaient autour de nos musiciens, mais la première main s'est levée là, je pense, j'espère, voilà. E.T., effectivement, qui était une des vedettes de l'année, même si c'était l'année d'avant, en l'occurrence, le film est sorti, et E.T. vient sur Terre. Est-ce que, Hubert, si un E.T. existait quelque part dans l'univers, il aurait la même vision que nous de cet univers ? Est-ce qu'il arriverait aux mêmes supputations ? Est-ce qu'il y aura un E.T. avec la tête d'Hubert Reeve ?
Voilà des questions bien difficiles. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'il soit aussi différent de nous que le sont les autres espèces animales qui ont atteint l'intelligence. Par exemple, les dauphins. Les dauphins ont un comportement qui ressemble souvent au nôtre, mais on sait très bien que leur vision du monde, en autant qu'ils puissent la communiquer, est très différente.
J'ai toujours été fasciné par le fait que rien que sur la Terre, qui est un truc qu'on connaît déjà, il puisse y avoir deux formes de vie aussi différentes que l'homme et l'huître.
Non, mais tout à fait, ou les papillons, les 50 000 espèces de papillons. Mais ma question, elle est un peu plus loin encore, Hubert. Est-ce que notre regard est objectif ? C'est-à-dire, est-ce que nous, êtres humains ici, dans notre atmosphère, et puis avec notre cerveau, fabriqué d'une certaine manière, qui perçoit trois dimensions, est-ce qu'il peut tout comprendre ?
Eh bien, c'est une question qu'on se pose. On n'a pas de, peut pas avoir d'affirmation définitive et catégorique, bien sûr, à ce sujet. Je pense que en autant que nous faisons partie de l'univers, que nous sommes un des êtres de l'univers, nous sommes particulièrement bien placés pour connaître, non seulement par notre intelligence, mais aussi par notre connaissance existentielle, si on peut dire d'une certaine façon. Et est-ce que tout comprendre, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire tout pouvoir écrire sous forme d'équation? Je ne crois pas. Je ne crois pas que la réalité se réduise à un ensemble d'équations, à un ensemble de données conceptuelles qui peuvent être mises sur papier. Je pense que comprendre la réalité, ça veut dire aussi participer à la réalité.
Finalement, tu n'es pas tellement plus rationaliste que Yves Dutheil.
Si on veut dire par rationaliste quelqu'un qui exclut tout mode de connaissance autre que le mode rationnel, je ne suis certainement pas rationaliste.
Tout à l'heure, on a fait un sondage au sein de l'équipe de Trajectoire pour savoir quelle était la chanson d'Yves Dutheil qu'on voulait le plus entendre. Alors, ma foi, nous avons choisi Yves Prendre un enfant dans ses bras pour terminer l'année 83. Yves Dutheil, accompagné de Joël Favreau, Bernard Péchier. Merci Yves. Je suis là, je suis derrière. Si je suis au milieu des enfants, j'ai fait une injustice parce qu'autour de Frédéric Drouillon et de ses synthétiseurs, dans notre décor, il y a tellement de monde aujourd'hui dans le studio. Il y a une petite fille, comment tu t'appelles ?
Marie-Laure.
Marie-Laure, t'avais trouvé le personnage ?
Oui.
Et puis j'étais retourné, alors ben, tu sais quoi, tu vas avoir droit à un cadeau aussi France Inter avec un sac France Inter dans quelques instants. T'as peut-être une question à poser au scientifique, à Hubert Rive ? Là, je te pose un piège. Hubert, est-ce qu'il y a une intention dans l'univers ? Est-ce que tout cela est déterminé ? Est-ce que tu penses qu'il y a un futur pour l'univers ?
Ah, ça, c'est trois questions, là. Je vais prendre la première, qui est la question la plus intéressante, c'est la question de l'intention. Est-ce qu'il y a une intention derrière tout ça ? Bien, je pense qu'on ne peut y répondre qu'à titre personnel. Je crois que la science elle-même ne peut pas répondre à cette question. Elle ne peut que nous présenter des éléments, par exemple cette organisation de l'univers, et à partir de ces éléments que nous découvrons, chacun, avec sa sensibilité, peut arriver à une conclusion ou à une autre. Par exemple, si vous avez un tempérament plutôt mystique, religieux, si vous aimez l'idée, par exemple, que tout cet univers est organisé et qu'il y a une intention derrière, vous avez tous les éléments pour fonder votre opinion. Mais si votre voisin, qui est un rationaliste et qui est allergique à l'idée d'une intention dans l'univers, eh bien, si vous engagez une discussion avec lui, vous n'avez pas de possibilité de lui prouver à partir d'éléments scientifiques que vous avez raison plutôt que lui. Je pense que ça, c'est très important de voir ce côté subjectif des interprétations, des opinions religieuses ou philosophiques. Parce que quand on veut arriver à une vérité absolue, si par exemple, au nom d'une religion, vous voulez obliger les autres à penser comme vous, à penser qu'il y a une intention dans la nature, vous arrivez à tous ces vices favoris de notre Occident, qui est l'inquisition qui a brûlé Giordano Bruno, qui est l'intolérance, que sont les guerres de religion. Je crois qu'il est très important de respecter le parcours intérieur de chacun. Et le parcours intérieur de chacun, il se fait par le contact avec les réalités que nous apporte la science, et à partir de ces réalités, une interprétation, une opinion, et à ce titre, chaque opinion de chaque personne est également digne et également à respecter.
Autrement dit, une ouverture d'esprit, Yves...
Et... Moi, ça me plaît beaucoup, ça. J'ai plus de micro. Oui, je voulais dire que ça me plaisait énormément, ce que venait de dire Hubert Rives. Ça rejoint tout à fait la conception que j'ai de l'univers. Quand je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de hasard, c'était une manière d'essayer d'empêcher aussi qu'on arrête les choses à une explication donnée. Je crois que l'explication, effectivement, elle existe en chacun de nous, et c'est une manière, la science est là pour donner un certain ordre à toutes ces choses, pour qu'on puisse constater que la vie est possible et qu'on a aussi notre mot à dire.
Tout à fait d'accord.